Bien, on va commencer ce café littéraire qui va consister à une tâche très agréable qui va être de mettre Brandon Sanderson à la question. Et alors j'ai deux complices pour le faire. D'un côté Sylvain qui va lire deux extraits en situation et Lionel Davoust qui va nous traduire la parole de Brandon Sanderson. Alors on va essayer d'éclairer un peu notre auteur qui est actuellement certainement une des plus grandes vedettes de la fantasy américaine. D'ailleurs sur ses livres il y a une citation de Robin Hood qui recommande de lire chaudement son cycle. On peut difficilement avoir mieux.
I was very excited. She is such a nice person, and I love her books. And so, to get a recommendation was fantastic.
J'étais vraiment très heureux. C'est quelqu'un d'absolument adorable, et j'adore ses livres. Et c'était donc merveilleux d'avoir une recommandation de sa part.
Alors, on va commencer par le début de la carrière. Vous avez remarqué, Brandon Sanderson est un homme assez jeune, on ne livrera pas sa date de naissance, mais à l'université, il a fait partie du staff rédactionnel d'un journal qui s'appelait magazine semi-professionnel qui s'appelait Leading Edge. Est-ce que c'est en travaillant pour ce magazine spécialisé dans la speculative fiction qu'est née votre vocation d'écrivain ou est-ce qu'elle venait d'avant?
It's actually I went and worked on the magazine because I wanted to be a writer and I thought it would be very useful for me to understand how editors think and the position that they are in.
En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de travailler sur cette revue, c'est parce que je savais que j'avais envie d'être écrivain et je me suis dit que ça pouvait être utile de voir comment les éditeurs pensent dans la situation qui est la leur.
It is also on the magazine that I met many people who also wanted to be writers or editors and they became some of my good friends in the community. I formed a writing group that I'm still part of back then and this is now over 10 years ago.
Et c'est en travaillant sur cette revue que j'ai rencontré beaucoup de gens qui voulaient également être écrivains ou éventuellement éditeurs et qui sont devenus de bons amis. On a fondé un groupe d'écriture dont je suis encore membre 10 années plus tard.
Alors, une question que je n'avais pas prévue parce que je m'avais pensé que vous alliez répondre dans cette première question, comme quoi il faut remettre... C'est qu'est-ce qui vous a donné envie d'être écrivain? Est-ce que ce sont les lectures que vous avez faites quand vous étiez enfant ou adolescent?
That's it exactly. It's my desire to become a writer came because of the great books I read when I was a youth.
C'est exactement ça. Mon désir de devenir écrivain est né des livres excellents que j'ai lus quand j'étais jeune.
I told this story in part in an earlier panel previously, but I did not like reading at all until a teacher who, coincidentally, her name was Ms. Reader, my literature teacher, required me to do a book report. And I tried to find a way to wiggle out of it, to not do it. I tried to pick a book that I had loved when I was 8 years old. And I'm at this point 14. And I said, I'm going to read this book. And she said, no, you're not.
J'ai déjà un peu raconté cette histoire dans un des cafés littéraires précédents. En fait, quand j'étais jeune, j'aimais pas du tout lire. Ms. Reader. Mon professeur de littérature s'appelait, d'ailleurs c'est amusant, elle s'appelait Ms. Reader, ce qui disons, on pourrait dire lecture malheureuse. Et j'avais une fiche de lecture à faire et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer d'éviter et d'esquiver la tâche. Donc pour ce faire, en fait, elle m'a dit de lire un livre et de faire une fiche dessus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un livre que j'avais adoré quand j'avais 8 ans, sauf qu'à l'époque j'en avais 14. Et elle m'a dit non, ça marchera pas, tu vas pas faire ça.
And she forced me to read a book that she had read because she knew that I was good at faking and pretending to read books when I didn't really, because I was not a very good student, I'm embarrassed to admit. And so she made me pick one off of her shelf. And the book I ended up reading was called Dragon's Bane by Barbara Hambly. It was the first fantasy novel that I had ever tried.
Donc elle m'a forcé à lire un livre que elle avait lu parce qu'elle savait que j'étais assez bon pour faire de fausses fiches de lecture sur des livres que j'avais pas forcément lus. J'étais pas forcément un très bon élève, je suis un peu gêné de l'admettre. Donc elle m'a fait choisir un livre sur ses étagères pour être sûr que elle l'avait lu. Et j'ai choisi Dragon's Bane de Barbara Hambly et c'est le premier livre de fantasy que j'ai jamais lu.
And I fell in love with reading because of that, and became a very big reader, particularly of fantasy. There was something about it that clicked with me, that resonated with me, that I had been searching for without knowing it for many years. And I tried writing my first book 1 year later, when I was 15.
Et je suis tombé amoureux de cette lecture, et depuis je suis devenu un gros lecteur, particulièrement de fantasy. Il y avait quelque chose dans ce livre qui résonnait profondément en moi. C'était un petit peu ce que je cherchais sans le savoir. Et un an plus tard, donc j'avais 15 ans, je me suis attelé à l'écriture, à essayer d'écrire mon premier livre.
Mais alors ce roman, Barbara Hambly, a été traduit en France. Et c'est effectivement un très très bon roman. Alors en 2005, votre premier roman, Elantris, voilà, il vient d'être édité... En paperback, hein, au livre de poche. Est-ce que Elantris, c'était votre première vente professionnelle? Et est-ce que c'était votre premier roman?
What happened was, I actually went to college, and my mother convinced me that writers don't make any money, and that I should be a doctor instead.
Alors ce qui s'est passé, c'est que je suis allé à l'université. Ma mère m'avait convaincu qu'un écrivain, ça ne gagnait pas sa vie, et donc j'ai fait des études de médecine à la place.
And so I went to college as a biochemist. Do you know biochemistry, Lionel? Yeah. And I spent 1 year as a chemist, and I really actually enjoyed it, but the math was so hard. Oh my goodness, it nearly killed me.
Je suis allé en université et donc j'ai suivi des études de biochimie. J'ai passé un an justement donc à faire de la chimie et j'aimais assez ça, mais en fait les maths étaient tellement difficiles, j'ai failli en crever.
At that point, after my first year, I actually spent 2 years in Korea because I am LDS, Latter-day Saint Mormon, and spent 2 years on a mission, and I was very, very happy to be on a different continent from chemistry.
Donc après cette année, je suis parti vivre 2 ans en Corée parce que j'appartiens à l'église de Latter-day Saints, donc je suis mormon. J'ai passé 2 ans en mission là-bas et j'étais vraiment très heureux de me trouver sur un continent pendant que la chimie était sur un autre.
And so I did, however, miss writing, and so I would spend my free days writing, and started my first real serious book, not high school. Think about maybe doing it. My first serious book, then I was 19. And that book took me 2.5 years to write. After I got back from Korea, still another 6 months. And upon finishing it, it was not very good, by the way. It was terrible. Upon finishing it, I decided this is really what I wanted to do.
Mais pendant que j'étais là-bas, l'écriture me manquait. Donc pendant mes journées de libre, je me suis mis à écrire et c'est là que j'ai voulu écrire mon premier livre vraiment sérieux. J'avais 19 ans à l'époque. Ce livre m'a pris 2 ans et demi à écrire. Même mon retour de Corée, il m'a fallu 6 mois de plus pour le faire terminer. C'était pas très bon d'ailleurs, soit dit en passant. Il était même d'ailleurs carrément mauvais. Quand je l'ai terminé, je me suis dit, oui, c'est ça que j'ai envie de faire.
And so, at that point, I changed my major to literature and creative writing in college, and started learning everything I could about writing possible. This was fortunate because I was not very good when I started. Many of us aren't, but I was really bad. And I realized that I was really bad. I also realized that the only thing I could do, because there were so many people that I was meeting who were very good new writers, I had to work harder than they did. That's what I decided. The only way I would become a professional writer was to work harder than them all.
Et donc à ce stade, j'ai changé donc mon cursus universitaire et je suis passé en littérature et donc notamment en écriture créative. Et je me suis décidé à apprendre tout ce que je pouvais sur le métier. Ce qui est une chance d'ailleurs parce que quand j'ai commencé, j'étais pas très bon, j'étais même mauvais. Beaucoup d'entre nous, quand nous commençons, ne sont pas forcément très bons, mais moi j'ai réalisé que j'étais vraiment mauvais et que j'avais rencontré aussi beaucoup de jeunes auteurs qui, eux, me semblaient meilleurs que moi. Et donc je me suis dit, la seule façon pour moi de devenir un auteur professionnel, c'est de travailler plus fort que les autres.
Now, I love writers a lot. I know have a lot of friends that are writers. So I say this with fondness. But writers, we sometimes are a little bit lazy. And this is because we have our heads in the clouds, as we say in English. We are daydreaming. We are thinking about this. We are thinking lofty thoughts. Actually getting around to writing it sometimes is very secondary. And so I knew a lot of writers, and I was kind of like this naturally too. And so I said, I'm not going to let myself do that. I got a job at a hotel where I could work at the front desk overnight. I went to work at 11 p.m. and I got off at 7 a.m. And then I went to school at 7 a.m. until about 1 or 2. And I did this for 5 years, undergraduate and graduate degree. Writing all night, every night, when the hotel was empty. And I wrote 13 novels.
5 years?
8 years. 8 years. I worked there for 5 years, but across 8 years I wrote.
J'aime beaucoup les écrivains, donc j'ai beaucoup d'amis qui le sont, donc je dis vraiment ça, faut pas le prendre mal, je dis ça avec beaucoup d'affection, mais nous les écrivains, nous sommes parfois paresseux, on a un peu la tête dans les nuages, on rêve, on baille aux corneilles, on a des pensées très élevées, et parfois se mettre à les coucher sur le papier devient un petit peu secondaire, et je dois admettre que naturellement j'avais été un petit peu comme ça, mais je me suis dit je vais pas me laisser aller à cette tendance. Donc à l'époque je me suis dit tu travailles dans un hôtel, tu travailles la nuit de 11h du soir à 7h du matin, tu peux écrire toute la nuit pendant que tu es à la réception. Donc c'est ce que j'ai fait, de 11h à 7h du matin, j'écrivais toute la nuit, ensuite j'allais prendre mes cours jusqu'à 1 à 2h de l'après-midi. J'ai fait ça pendant 5 ans, j'écrivais chaque nuit pendant le temps de terminer mes études universitaires et pendant ces 5 ans et les 3 ans qui ont suivi, donc sur une période de 8 ans, j'ai écrit 13 romans.
So to finally answer your question, I'm sorry, I write big books, so I have a tendency to kind of go on and on and on. Elantris was my 6th novel. I sold it right after I finished my 13th, which was The Way of Kings, which is out right now in America. It is coming out eventually in France, but... So it was my first professional sale and my 6th novel.
Donc pour répondre à votre question, je suis navré, j'ai tendance à écrire des romans un peu épais, donc j'ai un peu tendance à partir dans des tas de détours. Elantris a été mon 6e roman écrit, et je l'ai vendu après que j'ai terminé d'écrire le 13e, qui a été Way of Kings, qui vient de sortir aux États-Unis et qui finira par sortir en France. Donc Elantris était le 6e roman que j'ai écrit et ma première vente professionnelle.
Voilà. Alors, on va parler un petit peu de l'intrigue, parce que c'est un roman, en apparence, un roman de fantasy épique tout à fait classique. Sauf que quand même, il y a une caractéristique qui n'est pas très courante dans la fantasy, puisque à la fin de l'intrigue, une société, la société d'un royaume qui s'appelle Arelon, qui était une société très inégalitaire, se transforme en une société plus juste. Pas quelque chose qu'on trouve très souvent dans la fantasy.
Yes, I don't want to speak too much about the ending because I don't want to spoil it for people. But that is a theme in a lot of my work. And this book, Elantris in particular, Elantris is, I'm very proud of it. It is a single volume epic fantasy, which is not done very often these days. And I like series also, but I like the single volume for what it can do as an art form.
Oui, je voudrais pas trop gâcher et dévoiler la fin, mais c'est un thème qui revient souvent dans mon travail. Pour parler d'Elantris en particulier, j'en suis très fier et très content. C'est un volume unique, une histoire complète en un livre, ce qui est finalement pas fait très souvent en fantasy épique. J'aime les séries, bien sûr, mais j'aime aussi les volumes uniques pour ce que la forme permet.
And one of the things the form of the single volume can do is I can introduce a lot of themes and concepts, such as the one you brought out, and resolve them by the end of the book in ways that sometimes you can't do in a multi-volume book because you must leave story to tell as the books continue.
Et notamment, une des choses que cette forme peut faire, permet de faire, c'est qu'on peut aborder des tas de thèmes et de concepts et les résoudre d'ici la fin du livre. Ce qui est une chose qu'on ne peut pas forcément toujours faire dans une série avec plusieurs volumes, puisqu'on ne peut pas tout résoudre, il faut laisser de la place pour que les volumes suivants puissent exister.
Alors, une des caractéristiques, on ne va pas évidemment tenter de décrire l'intrigue qui est assez complexe, mais il y a trois éléments sur lesquels je voudrais avoir votre sentiment. Dans le roman, il y a une double intrigue. Il y a une intrigue qui se situe dans Elantris même, une cité victime d'une malédiction, et qui met en scène un personnage qui va essayer de transformer ce qui se passe dans cette cité sur laquelle pèse une terrible malédiction, le prince Raoden. C'est un personnage extrêmement positif.
Yes, I wrote this book in part as an experiment because I had been reading many books, and I like books like this, but I had been reading many books in which the main character was very depressed a lot of the time and very tortured inside. And those can make for fine books. And yet, I was a little bit bored of that style of book, and I wanted to write one in which my main character was like people I know who are positive and upbeat. And this is a person who has been put in a terrible, terrible situation. He has caught this horrible disease. He has been locked in a prison city for everyone with this disease. And I wanted to explore what it's like to be an optimist who is thrown into this terrible situation, and can you maintain that positive outlook when even your own religion says that you have been damned?
Oui, j'ai voulu écrire ce livre en particulier pour explorer un courant différent. Alors, parce que dans beaucoup de livres que j'ai lus, mais j'aime également ce courant, bien sûr, on a un personnage central qui passe beaucoup de temps de l'histoire à être un peu déprimé, qui est torturé à l'intérieur. Ça fait d'excellents livres, bien sûr. Mais à l'époque où j'ai écrit Elantris, en partie, je m'étais un petit peu lassé de cette veine et de ce style. Et je voulais écrire un livre où le personnage principal ressemble un petit peu aux gens que je connaissais autour de moi et qui étaient des gens positifs. Et qui étaient des gens qui gardaient le dessus sur les choses. Parce qu'on a ce personnage-là qui est dans une situation absolument terrible. Il a été frappé par une maladie absolument horrible. On l'a enfermé dans une ville qui est devenue une prison pour les gens qui partagent cette maladie. Et je voulais explorer ce que ça représente d'être un optimiste quand on est placé dans dans une situation aussi terrible. Et si l'on peut, et comment l'on fait pour maintenir une vision positive des choses, quand bien même toutes les religions ont dit que vous aviez été damné?
Alors, il y a un personnage masculin fort, mais il y a un personnage féminin encore plus fort, qui est la princesse Saren, qui se retrouve veuve avant d'avoir été mariée au prince Raoden. Et cette deuxième intrigue nous montre une jeune femme qui est à la fois belle, mais d'une intelligence et d'un sens stratégique remarquable. Il y a rarement des personnages féminins de cette envergure sous la plume d'un auteur masculin.
In this case, I think what we're running into, I don't know. My first experiences were fantasy, were books written by women with a very strong female protagonist. Dragonsbane, the next books I read were by Anne McCaffrey, Dragonflight, and then after that, fantastic author that's a little less known, Melanie Ron. Those are the three authors I first read. I read them long before I read Tolkien or anyone like that.
Alors, en l'occurrence, je pense que ça pourrait éventuellement revenir à mon expérience de lecteur de fantasy, et notamment les premiers livres que j'ai lus avaient été écrits par des auteurs qui avaient des protagonistes féminins extrêmement forts. J'ai parlé de Dragonsbane, de Barbara Hambly tout à l'heure. Ensuite, j'ai enchaîné avec les livres d'Anne McCaffrey, notamment le cycle du dragon avec le vol du dragon, et puis un auteur qui est un peu moins connu, Melanie Rowan. Et j'ai lu ces trois auteurs qui sont vraiment les trois premières que j'ai lues, bien avant de lire Tolkien.
And beyond that, my own mother, it's appropriate to say on Mother's Day here in France, my own mother was a fantastic role model for me. She graduated first in her class in accounting in college in a time when she was the only woman student in the accounting department.
Et je pense que cela peut aussi se relier à ma propre mère. Alors je pense que c'est un petit peu le bon moment pour en parler, puisque c'est la fête des mères aujourd'hui en France. Ma mère était un peu une sorte de modèle pour moi, puisqu'en fait elle a terminé première de sa classe de comptabilité à l'université, alors même qu'elle était la seule femme de tout le département.
And so I would say that I had some very strong female role models, but beyond that, I really feel that when I write a book, I want to explore all perspectives. Elantris is a good example of this. There is a third character who is the villain, but I very much wanted to be exploring his perspective and seeing the world the way he saw it. And if I tell only one story in a book, I feel that I, you know, particularly in a big epic fantasy, I feel I haven't really told the story if I've only told one person's view of it.
Donc j'avais beaucoup de modèles féminins très forts dans ma vie. Au-delà de cela, j'ai l'impression que quand j'écris un livre, j'ai envie d'explorer tous les points de vue que cette histoire propose. Dans Elantris, il y a un troisième personnage, un troisième point de vue, qui est, disons, l'antagoniste, le méchant de l'histoire. Et j'avais envie également de voir à quoi ressemblait le monde selon ses yeux, et d'essayer de me glisser dans sa peau et de voir le monde à sa façon. J'ai l'impression que quand je raconte une histoire et que je n'en pas cite qu'un seul point de vue, et en particulier dans le cas de la fantasy épique, j'ai l'impression que je n'ai pas raconté toute l'histoire.
Alors, on pourrait soulever bien d'autres points concernant Elantris, mais notamment, il y a une forme de magie particulière, notamment, il y a l'idée qu'une religion, alors que on est dans un univers où il y a plusieurs religions, une religion essaie de prendre le pouvoir partout et de devenir une religion unique. Mais on va passer à autre chose. C'est simplement pour vous dire que on trouve dans ce roman beaucoup de choses intéressantes. On va passer donc au grand cycle, Fils des brumes, qui pour l'instant comprend trois romans traduits en France, mais il y en a d'autres qui s'annoncent aux États-Unis, au moins un autre.
Yes, though it is starting a new cycle in the same world. The three that are out are a complete story. The fourth one is actually set hundreds of years later.
Oui, alors ce livre démarre en fait un nouveau cycle, mais qui se place dans le même monde. Les trois premiers forment une histoire complète, et c'est la même histoire. Le quatrième se place plusieurs siècles, plusieurs centaines d'années après la fin du troisième de Fils des Brumes.
Alors vous allez penser que mes grilles de lecture sont particulièrement obtuses, mais ce qui m'a frappé dans l'Empire final, c'est qu'il y a deux personnages forts. Et alors avec l'aide de Sylvain, on va tâcher de les explorer tous les deux. On va commencer par Win, qui est un personnage de voleur, une adolescente qui est douée de pouvoirs magiques. Et on va lire un extrait où elle va rencontrer un singulier personnage de la noblesse de la cité.
Les marches de pierre en colimaçon étaient petites mais raides. De petits vitraux, guère plus larges que sa main, perçaient le mur extérieur, mais ils étaient sombres en l'absence d'éclairage. Vin grimpait avec vigueur, dépensant son énergie débordante, mais le poids de la robe et la difficulté de la soulever pour ne pas trébucher la firent bientôt haleter. Brûler une étincelle de potin lui rendit toutefois l'ascension assez aisée pour qu'elle n'abîme pas son maquillage en transpirant. L'ascension se révéla en valoir la peine. Le balcon supérieur était sombre, seulement éclairé par plusieurs lanternes au vert bleu sur les murs, et fournissait une vue incroyable sur les vitraux. Le silence y régnait, et Vin se sentit quasi seule tandis qu'elle approchait de la balustrade de fer située entre deux colonnes pour regarder en bas. Au sol, le dallage de pierre formait un motif qu'elle n'avait pas remarqué, une sorte de courbe abstraite de gris sur blanc. Les brumes ? Se demanda-t-elle distraitement tout en s'appuyant contre la balustrade. Comme le support de la lanterne derrière elle, elle était complexe et détaillée. On les avait forgés de sorte qu'ils imitent d'épaisses plantes grimpantes recourbées. Sur les côtés, le sommet des colonnes était taillé en forme d'animaux de pierre qui paraissaient figés en train de sauter du balcon. « Eh bien, voyez-vous, c'est tout le problème quand on s'absente pour faire remplir sa coupe de vin. » Cette voix surgit de nulle part, fit sursauter Vin, qui se retourna. Un jeune homme se tenait derrière elle. Son costume n'était pas le plus raffiné qu'elle ait vu, de même que son gilet n'était pas aussi coloré que certains autres. Son manteau, comme sa chemise, paraissait taillé trop large, et ses cheveux étaient un peu ébouriffés. Il tenait une coupe de vin, et la poche externe de son veston était déformée par un livre un tantinet trop grand pour y être rangé. « Le problème, dit le jeune homme, c'est quand on revient pour découvrir que sa place a été volée par une jolie fille. Un homme galant se déplacerait en laissant la dame à sa contemplation, mais d'un autre côté, c'est le meilleur emplacement du balcon, le seul assez proche d'une lanterne pour qu'on puisse y lire nettement. » Vin rougit. « Je suis désolé, Milord. » « Eh bien, voyez, maintenant je me sens coupable. Tout ça pour une coupe de vin. Écoutez, il y a largement de la place pour deux personnes ici. Si vous voulez bien vous écarter juste un peu ?» Vin hésita. Pouvait-elle refuser poliment ? Il avait visiblement envie qu'elle reste. Savait-il qui elle était ? Devait-elle s'efforcer de découvrir son nom pour en informer Kelsier ? Elle s'écarta légèrement sur le côté et l'homme s'installa près d'elle. Il s'adossa à la colonne latérale et, à la surprise de Vin, sortit son livre et se mit à lire. Il avait raison. La lanterne éclairait directement les pages. Vin l'observa un moment sans bouger, mais il paraissait totalement absorbé. Il ne s'arrêta même pas pour la regarder. « Il ne va pas m'accorder la moindre attention ?» songea Vin, étonné de sa propre contrariété. « J'aurais peut-être dû porter une robe plus luxueuse ?» L'homme dégustait son vin, concentré sur son livre. « Vous lisez toujours au bal ?» demanda-t-elle. Le jeune homme leva la tête. « Chaque fois que je peux le faire en toute impunité. »« Est-ce que ça ne va pas à l'encontre du but de votre venue ?» demanda Vin. « Pourquoi assister au bal si vous comptez juste éviter de fréquenter les gens ?»« Vous aussi vous êtes monté jusqu'ici, » fit-il remarquer. Vin rougit. « Je voulais simplement avoir une vue de la salle. » « Ah oui ? Et pourquoi avoir refusé l'invitation des trois hommes qui demandaient à danser avec vous ?» Vin hésita. L'homme sourit, puis reporta son attention sur son livre. « Ils étaient quatre, » répondit Vin exaspéré. « J'ai refusé parce que je ne sais pas très bien danser. » L'homme baissa légèrement son livre et lui jeta un coup d'œil. « Vous savez, vous êtes bien moins timide que vous n'en avez l'air. »«
Timide ?» demanda Vine.
« Ce n'est pas moi qui regarde fixement mon livre en présence d'une jeune dame sans qu'on se soit présenté en bonne et due forme. » L'homme haussa un sourcil inquisiteur. « Eh bien, voyez, vous me rappelez mon père. Vous êtes bien plus séduisante, mais tout aussi grincheuse. » Vine lui lança un regard mauvais. Enfin, il leva les yeux au ciel. « Très bien, alors je vais jouer les hommes galants. » Il s'inclina vers elle après un pas raffiné et formel. « Je m'appelle Lord Elend, Lady Valette-Renoux. Puis-je avoir le plaisir de partager ce balcon avec vous pendant que je lis ?»
Voilà le premier passage avec cette jeune adolescente à qui on a confié une mission. Alors, on ne vous a dit pas plus, mais elle rencontre là un personnage qui va avoir un rôle important dans la suite de l'histoire. Le second personnage, c'est un personnage masculin. Hein. Il y a de la suite dans les idées. Brandon Sanderson, à chaque fois, un personnage féminin, un personnage masculin fort. Et ce personnage, il s'appelle Kelsier. C'est un personnage de rebelle et de hors-la-loi, mais qui a une ambition tout à fait particulière, surtout pour... quelqu'un qui faisait partie de la pègre. Cette ambition, elle est mue par la vengeance, et on va découvrir dans l'extrait suivant qu'elle y est en train de pratiquer la forme de magie qu'utilise Brandon Sanderson dans Le Fils des Brumes, puisqu'à chaque roman ou cycle de fantasy, il utilise des formes différentes de magie, et Sylvain on va reprendre la parole.
Le bastion Venture se dressait devant lui. Comparé à l'obscurité de la ville, il paraissait resplendir. Les nobles de haut rang ne vivaient pas selon les mêmes horaires que les gens du commun, parce qu'ils avaient les moyens de s'acheter et même de gaspiller de l'huile de lampe et des bougies. Les riches n'avaient pas à s'incliner devant les caprices des saisons ou du soleil. Le bastion était majestueux, détail visible rien qu'à son architecture. Alors même qu'un rempart entourait le terrain, le bastion lui-même évoquait davantage une construction artistique qu'une fortification. De robustes contreforts décrivaient des arcs sur les côtés, au milieu des vitraux complexes et des flèches délicates. Des vitraux vivement colorés s'étiraient en hauteur le long des côtés du bâtiment rectangulaire et la lumière en les traversant teintait les brumes environnantes de toute une gamme de nuances. Kelsier brûla du fer, l'attisa bien fort et scruta la nuit en quête de larges sources de métaux. Il était trop éloigné du bastion pour se servir de petits objets comme des pièces ou des charnières. Il lui aurait fallu un point d'ancrage de belle taille pour franchir une telle distance. La plupart des lignes bleues étaient faibles. Kelsier en vit plusieurs qui se déplaçaient devant lui selon un schéma lent et régulier. Sans doute des gardes sur le toit. Kelsier devait percevoir leur plastron et leurs armes. Malgré les risques liés à la lomancie, la plupart des nobles armaient toujours leurs soldats de métal. Les brumants, capables d'exercer poussée ou traction sur les métaux, n'étaient pas fréquents, et les fils des brumes encore moins. De nombreux lords estimaient qu'il était peu pratique de laisser ses soldats et ses gardes relativement sans défense par crainte d'une si petite portion de la population. Non, la plupart des nobles de haut rang comptaient sur d'autres moyens pour se défendre contre les allomanciens. Kelsier sourit. Dockson avait dit que le seigneur maître employait une troupe de brumicides. Si c'était vrai, Kelsier les rencontrerait sans doute avant la fin de la nuit. Il ignora un moment les soldats pour se concentrer plutôt sur une ligne bleue continue qui désignait le toit élevé du bastion. Le toit devait être couvert de feuilles de bronze ou de cuivre. Kelsier attisa son fer, inspira profondément, puis exerça une traction sur la ligne. Brusquement, il se trouva entraîné dans les airs. Kelsier continuait à brûler du fer, s'attirant vers le bastion à une incroyable vitesse. Certaines rumeurs affirmaient que les fils des brumes savaient voler, mais c'était une exagération teintée d'envie. En règle générale, exercer une poussée ou une traction contre les métaux donnait moins l'impression de voler que de tomber, mais dans la mauvaise direction. Un allomancien devait exercer une vigoureuse traction pour atteindre la bonne vitesse qui le projetait vers son point d'ancrage à une allure intimidante. Kelsier se précipita vers le bastion tandis que les brumes s'enroulaient autour de lui. Il franchit sans mal le mur protecteur entourant le terrain du bastion, mais son corps retomba légèrement vers le sol tandis qu'il bougeait. C'était la contrainte liée à son poids, une fois encore. Il l'attirait vers le bas. Même la plus rapide des flèches penchait légèrement vers le sol tandis qu'elle filait. Rappelé vers le sol par son poids, il décrivait un arc au lieu de s'élever tout droit vers le toit. Il approcha du bastion à une dizaine de mètres en dessous du niveau du toit, se déplaçant toujours à une vitesse terrifiante. Inspirant profondément, Kelsier brûla du potin et s'en servit pour accroître sa force physique de la même manière que l'étain affinait ses sens. Et il pivota dans les airs pour atterrir sur le mur de pierre les pieds en avant. Même ses muscles renforcés protestèrent face au traitement qu'il leur imposait, mais il s'arrêta sans se briser les os. Il relâcha aussitôt sa prise sur le toit, laissant tomber une pièce contre laquelle il exerça une poussée alors même qu'il commençait à tomber. Il sélectionna une source métallique au-dessus de lui, les soudures d'un vitrail, et y exerça une traction. La pièce toucha terre en dessous de lui, désormais capable de soutenir son poids. Kelsier se projeta vers le haut, appuyant contre elle en même temps qu'il tirait sur la fenêtre. Puis, éteignant les deux métaux, il laissa la vitesse acquise le transporter sur les derniers mètres de son ascension au cœur des brumes obscures. Tandis que sa cape claquait doucement, il franchit le rebord de la passerelle de service du bastion, bondit par-dessus la rambarde de pierre et atterrit discrètement sur la corniche. Il surprit un garde à moins de 3 pas de lui. Kelsier lui fonça dessus en une seconde, bondissant dans les airs, tirant légèrement sur son plastron d'acier pour le déséquilibrer. Tirant d'un geste vif l'un de ses poignards de verre, il laissa la force de sa traction de fer le rapprocher du garde. Il atterrit avec les deux pieds contre la poitrine de l'homme, puis s'accroupit et l'entailla à l'aide d'un grand geste nourri par le potin. Le garde s'effondra, la gorge tranchée. Kelsier atterrit légèrement près de lui, l'oreille tendue pour guetter des bruits d'alarme dans la nuit. Il n'en entendit rien.
Voilà donc un petit extrait qui nous montre le personnage principal en action et le type de magie qu'il utilise. Alors ce personnage, il a une autre caractéristique, c'est que c'est en fait une figure christique. Est-ce que vous en avez fait sciemment une figure christique, puisque c'est quelqu'un qui donne sa vie pour atteindre son but?
I definitely was conscious of what I was doing. The nature of religion is very fascinating to me, and how people react to different religions and how faith occurs. And so Kelsier is actually himself trying to accomplish something through the use of kind of the faith of others. And so it's a theme in the books.
J'étais très conscient de ce que je faisais quand j'ai écrit ces livres. La nature de la religion est quelque chose qui me fascine, comment les gens réagissent à des religions différentes et comment est-ce que la foi peut naître. Kelsier s'efforce d'accomplir une tâche et il le fait à travers la foi des autres, en s'en servant. Et c'est un thème qui est assez présent dans les livres.
Alors, ce roman se termine par quelque chose aussi qui est assez exceptionnel dans la fantasy, puisqu'il y a une révolution populaire. Et on passe ensuite au deuxième volume. Et alors là, c'est ça qui est extrêmement intéressant, parce que ce premier volume, on pourra imaginer qu'un pouvoir renversé, une société plus juste mise en œuvre, on en reste là, l'histoire soit bouclée. Or, en fait, il n'en est rien. Le deuxième volume va raconter une autre histoire sur les ruines de cet empire déchu. Il va falloir construire quelque chose. Et c'est ces deux personnages, Wynne et le jeune homme qu'elle a rencontré au bal, qui vont devenir les personnages principaux pour essayer de remplir cette tâche, mais au milieu de difficultés.
Though, again, I don't want to speak too much of the second book for fear of spoiling the first book for those who haven't read it. And so, but But yes, one of the things I was trying to do with this trilogy is upend some of the standard tropes of fantasy. And many people reading the first book, there are plots that they expect will take all three books, which I intentionally wrap up in the first book in order to get on to being able to ask some of the questions that aren't often asked in fantasy, such as what you raised, the what next.
Oui, alors, encore une fois, je préfère éviter de trop parler du deuxième livre pour éviter de gâcher le plaisir à ceux qui n'ont pas encore lu le premier. Mais une des choses que je voulais faire dans cette série, c'était un petit peu de renverser certains des tropes, des thèmes standards de la fantasy. Pendant quand on lit le premier livre, il y a des intrigues qui se mettent en place, qui sont réglées au troisième. Je voulais en faire en sorte que le lecteur se pose la question, en ayant terminé le premier, bon alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ?
One thing I will mention, listening to these two different excerpts, I was interested that you picked those two because I like how well they represent what the book is doing. Because on one side we have the magic and we have Kelsier and we have his kind of action-oriented sequences. And the other we had the Vin sequence, which involved quite a bit of dialogue and hopefully some amusing scenes and some personal reactions and character relationships.
Une chose que je voudrais mentionner, je trouve ça très intéressant que vous ayez choisi ces deux extraits parce que je trouve qu'ils représentent bien ce que le livre essaie de faire. D'un côté, on a l'histoire de Kelsier avec toute cette magie, des scènes qui sont assez orientées vers l'action, et puis de l'autre côté, on a Vin avec des scènes plus dans les dialogues qui sont amusantes, du moins je l'espère, et où on a des choses qui concernent des réactions personnelles des personnages et leurs relations.
I feel very strongly in writing the books that I do, be partially because of the length that they are. And I like long books. I like books that you can sink your teeth into and that you can get a big, full story with lots of different characters and different viewpoints. But one of the other things I like about a big book is in a long book such as this, you have time to explore many different tones and themes. And I like to make sure my books include some scenes of humor, some scenes of romance, some scenes of action, some themes, scenes of just simple deep thought and ramifications of philosophy. And in a book like this, you get a chance to do all of that, which I like quite a bit.
Aussi, d'un autre côté, j'aime énormément les gros livres et je dois avouer que j'ai un petit peu des idées préconçues sur les gros livres parce que j'aime ça. J'aime les livres énormes dans lesquels on peut véritablement rentrer et en longueur où on obtient où on découvre une grande histoire bien complète avec différents états de personnages, des tas de points de vue sur les choses. L'autre chose que j'aime bien justement sur ces livres, en dehors de ce goût-là, c'est que ça donne le temps d'explorer tout un tas de choses différentes, tout un tas de tons et de thèmes. Je m'assure que tout le livre que j'écris comporte des scènes d'humour, des scènes romantiques, des scènes d'action, des scènes de pensée profonde avec peut-être même des connotations philosophiques. Et quand on écrit un livre de cette taille, on a la chance de tout faire.
People often ask me, because I'm sitting at a table signing, why what is interesting about my books, why they should read my books. And I would say that there are several reasons. The first is that one. Picking up one of my books, you are going to get a wide range and a lot of different things happening. You're going to get humor, you're going to get romance, you are going to get action, you're going to get philosophy. The second reason, I would say, the thing that makes me distinctive is my magic, which you have mentioned. My science background is manifest a lot in the science in my books. In Elantris, the science is geometric. And it has to do almost with, they're almost chemical proofs using runes that you will write out and draw out. That's my chemistry background. In Allomancy, which is in the Mistborn books, you find magic that is, I treat like a different branch of science. And it responds to the scientific method. And people can explore it and figure out how it works scientifically. It's repeatable. And so I think this is something that I am doing that certainly I'm not the only one, but it is something that I think is distinctive about my books because it is something I am fascinated by, and so it comes out in my stories.
L'autre chose que je voudrais dire, c'est que parfois je vois des personnes qui viennent à ma table alors que je suis en dédicace et qui me demandent qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans vos livres, pourquoi je devrais les lire. Et je réponds, il y a plusieurs raisons. La première, c'est justement ce que je disais, c'est que dans un de mes livres, vous obtiendrez tout un éventail de choses avec tout un éventail de péripéties différentes qui vont se passer. Vous aurez de l'humour, vous aurez des sentiments, de l'action, même un peu de philosophie. L'autre raison, c'est mes systèmes de magie, ce dont vous avez parlé, c'est que je l'approche un petit peu de façon scientifique. Mon intérêt pour la science se manifeste à travers ces livres. Par exemple, dans Elantris, on a quelque chose de très géométrique, quelque chose qui est fondé sur des runes et la façon dont on les dessine, et on peut presque faire des expériences avec ces dessins et cette géométrie. Dans Fils des Brumes, on a l'allomancie. C'est une magie que j'essaie de décrire comme étant disons une branche différente de la science et que l'on peut aborder et explorer en utilisant une méthode empirique ou la méthode scientifique. On peut l'explorer, les expériences qu'on fait avec sont répétables. Alors je suis pas le seul à faire ça bien sûr, mais je pense que ça donne un côté un peu distinctif, et moi mon intérêt, la science a un côté fascinant pour moi, et je pense que cet intérêt transparaît à travers mes histoires.
Alors comme on approche de la fin de cet entretien. De toute manière, j'avais pas du tout l'intention pour vous montrer que j'ai l'esprit à ne pas dévoiler les intrigues. Nous ne toucherons pas un seul mot du troisième volume. Mais par contre, on va vous interroger sur un autre aspect de votre œuvre, puisque vous avez été choisi à cause de Fils des Brumes pour continuer et poursuivre, achever, peut-on dire, un des grands cycles de la fantasy, qui est La roue du temps de Robert Jordan, qui est décédé avant d'avoir pu terminer son cycle. Alors là, vous vous trouvez dans un cas de figure qui est très différent, puisque vous êtes amené à chausser les bottes d'un autre écrivain. Pouvez-vous nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce qui différencie cette expérience de votre autre travail d'écrivain?
Yes, it is very different, and it is very difficult. Fortunately, I've been reading the Wheel of Time books since I was a youth. I started the first one when I was 14 years old, soon after I discovered fantasy, the first one was released. So I've been reading them for over 20 years now. And the characters in these books are much like my old high school friends. They're as close to me as that. So in some ways, that feels very natural. But at the same time, I want to write the books the way that Robert Jordan would have written them, not the way that I would write them. And so I try very hard to make them feel like they're his books. And this can be a difficult process.
C'est très différent et c'est aussi très difficile. Par chance, j'ai lu La Roue du Temps dès ma jeunesse, depuis que j'étais tout jeune. J'ai lu le premier livre quand j'avais 14 ans, c'est-à-dire peu de temps après que j'ai découvert la fantasy. Et je les lis depuis, maintenant ça fait à peu près une vingtaine d'années que je les lis. Les personnages des livres donc ressemblent un petit peu comme moi, pour moi comme des amis de lycée. Et j'en étais aussi proche. Donc en un sens pour moi c'est assez naturel puisque j'ai ce lien. Mais l'autre chose qui rend le travail difficile, c'est que je m'efforce d'écrire ces livres comme si c'était Robert Jordan qui les avait écrits, et pas comme si moi je les comme pas la façon dont moi je les aurais écrits. Je veux faire en sorte que ces livres ne paraissent pas différents de ce que lui aurait fait.
Alors une dernière question, en avez-vous terminé avec Alcazar Smedri, puisque Brandon Sanderson a écrit aussi 4 romans pour la jeunesse à propos d'un personnage extrêmement sympathique, Alcazar Smedri.
There will be more Alcatraz, at least one more book in the future. My contract is complete with my publisher in the U.S. With the four. And so it may be a little bit of time. I'm going to finish the Wheel of Time first. It may be a year or so, but there will be at least one more book.
Il y aura d'autres histoires concernant Alcatraz. Il y en aura un de plus. J'ai rempli mon contrat, il est terminé, avec mon éditeur américain qui m'avait demandé 4 livres, et c'est ce que j'ai fait. Peut-être que dans un peu de temps, quand j'aurai notamment terminé La Roue du Temps, c'est-à-dire mettons dans une année, il y en aura effectivement un cinquième.
Voilà, Brandon Sanderson a écrit d'autres ouvrages. Débuté un autre cycle qui s'appelle The Stormlight.
Stormlight
Archive. Un tout petit éclairage sur...
Could you tell us a little bit about the Stormlight Archive?
Yes, the Stormlight Archive, the first book, The Way of Kings, was the book that I finished right before I finally sold a novel. And it was the book that I wrote, how shall I say? I had had some trouble getting published. It had been... Now, 8 years I've been writing and not gotten published, and so I was feeling very depressed. And so to pull out of the depression, I decided to write the best book that I possibly could. I had been trying before then to chase the market a little bit, and that was part of what was depressing. And I decided to abandon that, and despite the fact that everyone was telling me that I was writing books too long to be published, I was going to write the biggest, longest, most awesome book that had ever been written.
Alors, Stormlight Archives, donc le premier volume qui s'appelle Way of Kings, était le livre que j'ai terminé d'écrire juste après que j'ai vendu mon premier livre. À l'époque, j'avais quelques problèmes à réussir à être publié. Ça faisait 8 ans que j'écrivais et personne ne m'avait publié encore et je me sentais un petit peu déprimé. Et j'ai décidé de me sortir un peu la tête de tout ça et d'écrire le meilleur livre dont j'étais capable. Je dois admettre qu'avant, j'essayais un petit peu de suivre les goûts et les modes du marché, et c'est une des raisons pour laquelle ça me déprimait un peu. J'ai décidé d'abandonner complètement ça. On n'arrêtait pas de me dire que j'écrivais des livres trop longs pour la publication, mais j'ai décidé de laisser tomber les conseils et d'écrire le plus long, le plus gros et le plus génial livre que je pouvais.
I had been... holding off on starting a very long, big series because I wanted readers to trust me first. And so I wanted to be able to provide for them shorter series, standalones or trilogies that I showed what I was capable of doing before I asked them to read something of much longer length, a big epic. Because it's dangerous getting into one of those because you don't know if you're going to like the writer's writing. And if you get into the first book and don't like it, then you have a trouble because are you going to finish the whole series for like the next 15 years not liking the author just because you want the ending? Or do you give up and never get an ending? It's a very difficult choice.
Et j'avais un petit peu retardé l'écriture d'une très longue série de ce genre-là parce que je pensais que le lecteur devait apprendre à me faire confiance d'abord. C'est pour ça que j'essayais d'écrire des cycles plus courts, des trilogies ou même des livres indépendants parce que je voulais que le lecteur se sente capable de me faire confiance avant que je puisse lui demander de lire une énorme série. Je pense que c'est un petit peu dangereux quand on écrit ce genre de choses, ce genre de très longue série parce que si le lecteur entame la série et découvre qu'il ne l'aime pas, alors tout le monde a un problème. Est-ce que le lecteur termine la série, même s'il n'aime pas l'écriture, est-ce qu'il reste enchaîné à cette série pendant les 15 ans à venir, simplement pour avoir la fin, alors même qu'il n'aime pas le style, ou est-ce que, il laisse tomber, mais à ce moment-là, il n'aura jamais la fin.
And so I had waited to write this book for those various reasons, but at this point when I started writing it, I felt I didn't know if I would ever get published anyway, and I just really wanted to write this book. And so I wrote it, and it was twice the length of Mistborn, which is already a long book. And then I sold Elantris, unexpectedly for me, because I had not, I was kind of thinking no one was ever going to publish me. And so the editor who bought Elantris wanted to see my next book. So I sent them The Way of Kings, which was massive and included, instructions for 30 pages of art inside of it and all of these massive things. And I scared the editor so much, he didn't know what to do. And I suggested, it's okay, I can wait to publish this until I've established myself, so that when we spend that much on a much more expensive book, the readers will trust that they can enjoy it. So The Way of Kings is the big, super awesome series I've always wanted to be doing. And now I feel like I have laid the foundation in my career that people will trust me enough to do it. Let me do it.
Donc j'ai attendu la publication pour ces diverses raisons. Donc, mais à l'époque où donc comme j'étais pas publié, je me disais bon bah puisque de toute façon je vais jamais être publié manifestement, autant que j'écrive le livre dont j'ai envie. Et d'ailleurs donc j'ai écrit Way of Kings, qui est à peu près 2 fois plus long que le premier Mistborn, le premier Fils des Brumes. Mais à ce moment-là j'ai vendu Elantris, ce qui était complètement inattendu. Et l'éditeur qui avait pris Elantris donc m'a demandé à voir le prochain livre. Donc je lui ai envoyé Way of Kings, qui était absolument énorme et monstrueux. Il y avait 30 pages d'instructions pour inclure des illustrations. Ce qui lui a fait très peur et il s'est dit probablement mais qu'est-ce que je vais faire maintenant de ce type-là. Mais je lui ai dit bon, je lui ai suggéré, il n'y a pas de problème, je peux attendre de m'établir d'abord comme écrivain jusqu'à ce que le lecteur me fasse confiance pour faire l'investissement pour des livres qui sont plus gros, plus chers et qui puissent donc m'accompagner. Donc Way of Kings, c'est cette espèce de super énorme cycle que j'ai toujours eu envie de faire. Mais maintenant, je pense que j'ai établi suffisamment de fondations dans ma carrière pour le faire.
Voilà, et ben ce sera la fin de... Je sens qu'Audrey Blémy dans la salle à l'idée... Il me reste à remercier Sylvain pour les lectures, Lionel pour la traduction et surtout, évidemment, Brandon Sanderson d'avoir répondu à les questions en espérant que ça vous a donné envie d'aller fréquenter Les Fils des Brumes.
Just one more.
Yes,
please.
Of course.
For Barbara.
Barbara.